Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue de nouveau sur le podcast de la cohésion, pour plus de cohésion technique et humaine dans les entreprises de dev. J'ai le plaisir et l'honneur d'avoir pour cette chaîne podcast mon premier interviewé, la première personne que je vais enfin pouvoir échanger avec lui, Aurel Estoupe, de CTO de The Tribe. Va pouvoir nous accompagner durant ce podcast. Donc, un podcast qui va durer à peu près une demi-heure. On va parler CTO, on va parler cohésion, évidemment. On va parler cohésion technique et humaine. Et on va parler aussi comment se passer de CTO ou pas et comment favoriser l'autonomie aussi des développeurs, des développeuses dans une équipe. Aurel, bienvenue.
Salut Evan, merci beaucoup de me recevoir.
Avec grand, grand plaisir. Merci à toi. Merci de nous accueillir chez toi. Ça fait plaisir. Tu bosses
Ouais, il
en
y a quelques
télétravail, du
livres.
coup?
Ouais, je suis 100% en télétravail, sauf quand j'ai envie d'aller au bureau.
D'accord. Alors, parle-nous un peu de toi avant de commencer. Bon, j'ai vu qu'il y avait des présentations que tu as pu publier sur LinkedIn ou autre. Bah, d'ailleurs, The Tribe, tu as été interviewé. Un point qui m'a intéressé, je me suis dit, tiens, c'est étrange et en même temps, je trouve ça superbe. C'est bah, ton passé un peu archéologue que tu mets en avant. Et puis, parle-nous aussi de tes plus belles réussites, peut-être, de ta carrière, avant de commencer l'interview.
Cool, vaste sujet du coup. Ouais, alors peut-être prendre de manière un peu chronologique. Bah, ça fait 15 ans maintenant que j'ai commencé le dev au niveau pro. Sauf que j'ai fait un hiatus comme archéologue.
D'accord.
Voilà, un petit peu original.
Ouais.
Mais en soi, il y a plein de compétences un petit peu transverses, soft skills, organisationnelles qui finalement me servent aujourd'hui. De se passer d'archéologue en archéologie préventive en France. Du coup, j'avais commencé comme développeur bon, à la fac, et puis je faisais un peu de freelance, etc. Et à un moment, vers quel âge? C'était vers 23, 25 ans, j'ai fait un peu une crise de la vingtaine, et j'avais besoin de plus de sens. J'ai eu besoin de plus passer mon temps devant l'ordinateur, etc. Et donc, je me suis réorienté vers de l'histoire de l'art et de l'archéologie. Et de proche en proche, d'abord des stages et ensuite des CDD. Je suis devenu archéologue. Bon, c'est un milieu un peu précaire. Et comme on avait des projets perso avec ma femme, il y a 6 ans maintenant, bientôt 7, j'ai décidé de revenir à mes premiers amours et au dev, ce qui m'avait jamais vraiment quitté, mais c'était resté en hobby. Et donc voilà, donc j'ai refait une petite formation malgré mon master de remise à niveau à l'ENI à Saint-Herblain. Et je me suis relancé, j'ai très vite trouvé un stage qui s'est transformé en CDI, et puis voilà. Et donc je suis arrivé chez The Tribe en juin 2020. Comme dev senior. Et comme la boîte grandit, a ouvert à Paris et maintenant bientôt à Lille, il fallait structurer un petit peu le leadership technique, disons. Parce que Jérôme, le cofondateur, ne pouvait plus s'occuper de tout
D'accord.
seul en tant que CTO historique. Et donc en interne, alors il y avait des tentatives de recrutement externe, puis se tourner vers l'interne, faute de trouver des gens qui fitaient à la fois techniquement et culturellement dans la boîte. Du coup, en interne, Benoît et Jérôme, les fondateurs, ont sondé un peu qui pouvait y prétendre. Et mon nom est sorti de la part des autres devs. Et product manager. Et quand ils m'ont fait la proposition, et donc, comme avant, j'avais été tech lead dans pas mal de, enfin, surtout la dernière boîte, où j'étais tech lead d'une équipe de 30-40 devs, du coup, c'est à peu près l'effectif qu'on a à Nantes.
D'accord.
Donc, le rôle s'est rapproché, et donc, j'ai tenté. Maintenant, ça fait ouais, 7 mois, bientôt 8. Puis j'y suis encore et j'y reste, donc ça se passe pas trop mal.
Se passe pas trop mal. Ok. Tes plus belles réussites alors durant ces 8 mois?
Alors, mes plus belles réussites. Alors, il y en a une.
Ouais.
Il y en a une où je suis assez content. C'est que donc moi, je viens d'une culture assez tournée vers extreme programming, le mouvement software craftsmanship. Et donc, il y a une grosse attention à faire du code durable, des applications durables, pas faire des refontes tous les 2 ans. Et pour ça, un des moyens que j'ai découvert au cours de mes années, c'est au niveau architecture logicielle, de bien veiller à travailler sur l'injection de dépendance et ce genre de concept. Notamment via le pattern d'hexagonal architecture ou port adapter pattern qui date maintenant de 2005, l'article d'Alistair Cockburn, mais qu'on ne voit pas si souvent mis en application.
Tout à fait.
Donc, j'arrivais ça avec ça dans ma valise et donc bah, ce n'était pas répandu non plus. Donc j'ai commencé à évangéliser là-dessus en tant que dev et puis maintenant en tant que CTO. Et une des grandes réussites, c'est que c'est en train de prendre
Ah,
je vois, les initiatives des gens qui le mettent en place sur leur projet. Donc ça, c'est une des grandes réussites.
ouais, ça doit faire plaisir, ouais.
Complètement. Complètement. Parce qu'en plus de base, les premiers arguments, c'est se découpler de son framework, pouvoir changer de base de données, c'est souvent dit. Puis on répond en face, bah sur quelle appli tu as besoin de changer de base de données en plein milieu du développement. Et donc je suis bien content parce que sur un projet, alors c'est pas côté base de données, c'est plutôt côté front sur la librairie de rendu. On avait un projet mobile, le besoin client, aucun besoin hardware, besoin de simplicité, que ça puisse facilement switcher sur du web aussi. Donc on s'est dit, bon, bah, c'est le chantier parfait pour une PWA. Donc standard, Create React App en mode PWA. Et on a bien fait attention d'avoir des composants de rendu les plus stupides possibles et que la logique soit bien découplée. Bah, ça a pas loupé. 3 mois après, le client revient, il a grandi son marché, des nouvelles communautés de communes comme client à lui, et un nouveau besoin de connexion par Bluetooth entre l'appli mobile et le device en question. Et ben là, ça pose beaucoup plus de problèmes parce que iOS n'est pas prêt au niveau PWA pour s'interfacer avec le Bluetooth. Donc volonté de passer sur de l'hybride, du React Native. Et donc avoir eu des composants les plus humbles possibles et les plus stupides possibles a permis de gagner un temps fou sur le passage de la PWA en React Native.
Ouais, complètement, ouais.
Voilà, ça c'est une belle réussite. Et l'autre, bah, c'est un peu plus de l'ego et tout. Enfin, de l'ego. Non, mais. Donc, Jérôme, le fondateur, CTO historique, m'a fait le joli compliment l'autre jour de me dire qu'il était content que je l'ai challengé sur les pratiques parce que, selon lui, il commençait à s'encrouter un petit peu. Et du coup, ça l'a repoussé à remonter son niveau d'exigence, qui était déjà pas bas. Donc voilà, ça c'est un joli compliment, c'est un truc que je garde
Ça booste, ouais.
carrément.
Ouais, carrément. Et du coup, ça amène aussi une belle dynamique pour les équipes aussi à te suivre.
Ouais, complètement. Ouais. Là, j'ai fait un sondage pour récolter du feedback un petit peu en quantité, quoi. Noté de 0 à 5, 5 on est satisfait, 4 on est satisfait mais il y aurait beaucoup à redire et à modifier, 3 ni l'un ni l'autre, on s'en fout, 2 ça va pas du tout et 1 je vais m'en aller si tu restes, quoi. Et sur 40 réponses à peu près, il y a 2 réponses qui sont à 4 et toutes les autres sont à 5 sur 5 avec des jolis feedbacks, des jolis commentaires derrière. Donc j'avoue que ça booste, ouais, comme tu
Ouais.
dis. Voilà
Avec
pour les quelques faits marquants.
ouais, mais bah c'est en 7 mois du coup, c'est ça, en 7 mois.
Ouais, c'est ça, ouais.
Ouais, c'est engageant pour l'avenir du coup.
Complètement, ouais. Et
Ouais.
puis là, vu que le découplage, l'hexagonal architecture est en train de prendre place, on va pouvoir commencer à causer test-driven development.
Eh oui.
Parce que, bon, dans du code entièrement couplé, c'est compliqué
En effet,
d'avoir
ouais,
des tests
complètement.
pertinents.
C'est clair. J'aimerais revenir quand même sur le métier de CTO, parce que c'est quelque chose où, je crois que tu l'as même dit, il y a une confusion en fait entre CTO, tech lead et tous ces métiers autour de mentoring en fait. Est-ce que tu pourrais nous apporter ta vision de ce qu'est le CTO et ce qu'est le CTO chez The Tribe aussi, hein, comparé à un tech lead?
Ouais, je peux essayer. Après, j'ai pas encore énormément de recul dessus. Je me documente pas mal par rapport à mon interview qui est sur le blog de The Tribe où je disais dans l'idéal un CTO, on devrait pouvoir s'en passer. Bon, j'en reste partiellement convaincu quand même. Ça dépend quand même des contextes. Depuis, j'ai lu des articles intéressants justement sur la différence entre CTO, VP Engineering, Head of Engineering. Je dirais que le rôle du CTO, selon la taille de l'entreprise aussi, et si comme nous on fait du service ou si on est vraiment sur du produit, voire du produit industriel, c'est vraiment différent. Pour un CTO dans une toute petite boîte, inférieure à 10 personnes, et ou inférieure à 10 développeurs, je dirais le CTO, c'est vraiment le dev senior, quoi, très très senior, qui est touche à tout en plus, couteau suisse, qui doit être très autonome et avoir une énorme curiosité, quoi, pour justement apporter cette innovation, tout en pensant à l'avenir quand même, parce que petite boîte pourrait ne pas grandir, mais si elle grandit, souvent un des problèmes que j'ai pu voir, c'est bon, ben, on a fait notre MVP vraiment comme en mode poubelle, hein. Mais sauf qu'après, on lève des fonds, on a des investisseurs et il n'y a pas le temps de refaire le mode poubelle de from scratch et on paye la dette tout au long, quoi.
Ouais, complètement.
Ça, je dirais, que ce soit dans une boîte de service comme la nôtre, qui travaillons du coup pour les produits de nos clients, ou pour une toute petite boîte produit, je pense que c'est assez proche, quoi. Et puis, il n'y a pas trop de la limite entre CTO, donc tourner vers l'innovation, vers l'extérieur, etc., et plus un head of engineering, qui va être plus tourné vers l'intérieur, la progression. Je pense qu'il n'y a pas trop de différence, ou alors elle est floue. En tout cas, il n'y a pas assez de monde pour avoir les deux casquettes séparées. Quand la boîte commence à grossir, entre 5, 10 personnes et 100 personnes, genre, je sais pas, comme certaines des grosses boîtes françaises là, qui sont en train de marcher super bien, comme Alan, Ornicar, etc. Là, je pense que le CTO, il commence à devoir à être obligé de prendre de la hauteur, vraiment. Ça va plus être le dev senior, quoi. Il faut vraiment qu'il commence à penser stratégie d'innovation, se tourner vers l'extérieur, donner de la visibilité, de la légitimité technique à la boîte. Et donc, il va s'éloigner du terrain. Et je pense que c'est un moment crucial où il doit vraiment s'entourer de très bons tech leads. Parce que finalement, c'est à eux qu'il va déléguer la continuité des bonnes pratiques de dev, quoi.
D'accord.
Et puis de bien garder le dev et le produit à la limite comme une seule et même équipe, quoi.
Ah, d'accord.
Et donc là, on commence à avoir la séparation, quoi, CTO plutôt tourné vers l'extérieur et VP ou Head of Engineering qui va se tourner vers l'intérieur pour finalement l'idée ou manager les tech leads, etc. Pas forcément en ayant une pyramide hiérarchique d'ailleurs,
Ouais, stylé.
ça peut rester assez flat. Et puis après, bah, sur des boîtes vraiment produits qui sont avec plus de 100 développeurs, jusqu'à 500, etc., là, j'ai vraiment pas le recul pour m'exprimer dessus. Je pense que ça s'accentue encore plus. 500, je sais pas moi, 500 développeurs ou même plus comme GitLab, GitHub, Google, etc. C'est compliqué tout seul de gérer directement les tech leads. Donc il y a des équipes, il y a des départements entiers qui se mettent en place. On peut se demander, est-ce que ça existe encore un CTO dans la boîte? Du coup, mon rôle de CTO chez The Tribe, comme on est une boîte de service et qu'on fait de l'accompagnement produit sur mesure pour nos clients, on récupère pas l'ownership du produit. Donc, on va pas avoir un. On essaie d'avoir le maximum d'impact possible, mais on va pas non plus retourner la table si le client est totalement en désaccord avec ce qu'on lui propose. Et puis, on a. Moi, en tant que CTO, je suis plus là en support des équipes, soit pour leur donner de la légitimité vis-à-vis du client, soit pour confirmer leur choix, soit pour les aiguiller, etc. Ou intervenir en pompier, si jamais il y a eu un problème. Mais comme la base de tout chez The Tribe, c'est quand même l'équipe, les développeurs, ils sont recrutés parce que pour qu'on puisse avoir confiance en eux. Et du coup, c'est eux qui prennent la plupart des décisions. Et comme je mets sur mon profil LinkedIn, j'aime beaucoup la notion de servant leader, sans aucune référence à Scrum forcément, mais ouais, c'est vraiment dans cette logique-là, les inspirer, leur donner confiance et qui proposent, bah, qui fassent leur boulot du mieux qu'ils peuvent.
Donc tu parles vraiment d'une approche, en fait, une
À
dimension
nos
de
clients.
management.
Ouais, il y a une assez forte dimension management, si on est d'accord sur le bon sens du terme management, faire grandir les gens.
Ah ouais, bah, tout le monde n'a pas cette vision-là, hein, parce qu'il y a plusieurs visions qui s'affrontent en fait du management, hein. Il y a la vision autoritaire, top-down. Et là, tu es plutôt
Ouais.
sur une autre approche qui va presque vers la vision opale, en fait.
Ouais.
Cette approche du management un peu différente, plus centrée sur l'autogouvernance, en fait. C'est un peu vers là que tu vas, non?
Carrément, c'est. Bah, il y a Reinventing Organization qui décrit bien ça, même si bon, le bouquin a ses limites. Mais on a tous fait des book clubs dessus. Et c'est vrai que c'est hyper attrayant. C'est vraiment un truc ouais, que moi j'essaie de pousser, autonomiser au maximum les gens, qu'ils aient vraiment le sentiment d'avoir le droit à l'erreur. Que bon, la contrepartie, c'est la responsabilité de capitaliser sur ces erreurs, hein, mais et de faire en sorte de s'améliorer pour pas les reproduire. Mais ouais, il y a vraiment cette dimension, du coup, plus inspirer les gens. Les mettre dans un environnement de confiance pour qu'ils puissent exploiter pleinement leur potentiel, quoi.
On dirait presque du coaching.
On a une grosse part de coaching chez The Tribe, ouais. Chaque personne a un coach, en fait. Alors, pas un coach professionnel, privé, etc. Hein, c'est quelqu'un d'autre de la boîte. Et du coup, ça permet voilà, d'essayer de trouver ces axes personnels d'amélioration et d'épanouissement au sein de la boîte.
Tu veux dire chacun, même toi,
Ouais.
même toute personne, en fait, quel que soit son niveau hiérarchique.
Ouais, tout à fait, ouais.
Ouais, d'accord.
Bah, moi, quand je suis arrivé, j'étais coaché par Benoît Latinière. Et je l'ai gardé comme coach, même quand je suis passé CTO, et ça marche super bien.
D'accord. Donc c'est quoi, c'est si tu peux nous en parler pendant 2 minutes, comment ça se passe, cette séance de coaching, ça dure combien de temps? C'est de l'instantané non prévu, ou est-ce que vous mettez une sorte de rituel un peu à la Scrum où on se dit une fois par semaine, une fois par mois, ou comment ça se passe chez vous?
on a une fréquence indicative, disons, d'une heure par mois environ. Après, quand un coach sent que son coaché a besoin de plus, ou quand un coaché sent qu'il lui-même a besoin de plus, ça peut aller jusqu'à une séance par semaine. C'est vraiment en fonction des besoins du moment. Et puis, quand j'ai l'exemple de Mélanie que je coachais, qui était sur un projet relativement tranquille, pépère. Du coup, elle s'en limite à s'ennuyer un petit peu. Et du coup, ben, on en a parlé en coaching, etc. Et j'essayais de chercher, savoir si c'était vraiment quelque chose qui allait la mettre mal sur le moyen terme, ou s'il y avait des axes de travail autour de ça. Si c'est plutôt tranquille et que tu t'ennuies un petit peu, est-ce qu'on ne peut pas remonter des challenges à côté? Et donc le début de la séance de coaching était plutôt dans un état d'esprit un peu négatif, quoi, je m'ennuie, etc. Et en fait, à la fin de la séance, elle a réalisé que ça lui laissait du temps pour progresser sur des trucs sur lesquels elle voulait vraiment progresser. Et donc elle était reboostée, et puis, bah, du coup, ça a vachement été utile parce que le mois d'après, elle avait retrouvé de l'intérêt à son activité quotidienne, quoi, en réorganisant un petit peu sa journée. Voilà, un petit exemple. Et donc, ouais, une fois par mois. Et puis là, on essaye d'un peu plus. Donc, historiquement, c'était fait de manière assez empirique, pour pas dire amateur. Et là, on a une coach qui est venue nous faire une petite formation pour tout, une coach personnelle en développement personnel, qui est venue nous faire une petite formation pour vraiment capter l'essence de ce que c'est d'être coach. C'est pas juste boire une tasse de café et papoter, quoi. C'est vraiment avoir une posture qui permet à l'autre de se poser des questions, quoi. Et rappeler aux gens que bah, s'il doit y avoir des blancs parce que la personne en face n'a pas envie de travailler sur elle-même, bah, tant pis, c'est pas au coach de combler. Voilà. Moi, en
Ouais,
tant que bavard, c'était pas mal.
c'est une approche différente, ça. C'est pas commun dans les entreprises de voir ça.
Je l'ai pas vu avant, disons, pour être un peu neutre.
Je pense que c'est ça qui fait un plus. On est sur. Qu'est-ce ça, ouais, ça fait partie des atouts.
Ouais, je pense que ça fait partie des choses moteurs, en tout cas pour garder les gens motivés, pour vraiment garder vivant la progression de chacun et la volonté que chacun puisse s'épanouir, quoi.
Donc, ce serait une des clés. Alors, je vais poser une question fermée aussi, mais en coaching, on dit qu'on essaie de chercher les questions ouvertes aussi, si je me rappelle bien. Mais ça serait une des clés de la cohésion pour essayer de ramener un peu cette idée de cohésion, même si de tout ce que tu as décrit, on est autour de la cohésion. Moi, ça m'intéresse d'avoir ta vision là-dessus. Pour toi, ça peut faire partie, ou je vais essayer de le formuler autrement. Quelles sont, selon toi, les clés d'une bonne cohésion d'équipe, une bonne cohésion de tes équipes?
Ah, c'est intéressant. C'est intéressant comme question. Est-ce que c'est la clé de la co Est-ce que c'est une des clés de la cohésion, le coaching? Je ne sais pas. Indirectement, je dirais. Indirectement, parce qu'il y a quand même le rapport à l'autre qui joue dans son épanouissement en entreprise. Et donc, en réfléchissant sur son rapport à l'autre, ça permet aussi de mieux comprendre certaines réactions, que ce soit positive ou négative. C'est beaucoup en lien aussi avec. On a une grosse culture du feedback. Donc, dès qu'il y a quelque chose à dire, il faut le dire. Dès qu'on ressent le besoin de poser une question sur comment ça s'est passé, telle ou telle chose, il faut aussi la poser. Donc, ça rejoint pas mal ça au niveau de l'acceptation. Pour la cohésion, après, je pense que c'est encore plus large que ça. Bon, il y a comme dans toutes les boîtes, il y a l'aspect cohésion à aller boire des verres, avoir une bonne ambiance, jouer au baby-foot, même s'il sert plutôt de bibliothèque. Voilà. Et pour moi, un des éléments essentiels, en tout cas, dont j'ai besoin, que ce soit en tant que dev ou en tant que CTO, dans une boîte, c'est la cohésion. Je crois que c'est ce que tu appelles la cohésion technique. Donc, c'est tout ce qui va s'orienter autour de notre métier de tech, mais ça peut être avec d'autres métiers aussi, les product managers, les UX, tout ce qui va s'orienter autour de notre métier, quoi, donc de créer des produits. Là, on a fini il n'y a pas très longtemps notre première version hackathon interne. Où il y avait des thèmes de développement d'idées. Au début, ça devait durer un mois, donc c'était quand même un grand hackathon, quoi. Finalement, bon, avec la gestion des emplois du temps, on l'a fait durer 2 mois et on aurait pu produire autant qu'en un vrai hackathon de 72 heures ou 48 heures, mais c'était une expérience intéressante. À faire travailler des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble et à réfléchir à des idées vraiment from scratch à la place de nos comme si on était nos propres clients. Je suis un grand fan de tout ce qui est pair programming et mob programming aussi pour le travail quotidien, mais ça crée aussi cette cohésion, ce partage. Et je trouve que c'est vraiment primordial. C'est peut-être la seule pratique pour laquelle je regrette de tellement aimer le remote. Ça se fait très bien avec Visual Studio Code, les extensions qu'il faut, etc. Mais j'avoue que pour du mob programming, c'est quand même bien pratique à 3, 4 ou 5 d'être dans une salle avec un écran, un très grand écran et de tourner. Ça permet de garder l'énergie qui va dans le même sens, quoi. Donc si un jour quelqu'un, un CTO, invente un bon moyen de se téléporter, ça sera vraiment parfait. Voilà, ces pratiques-là, tout ce qui est coding dojo aussi, pour s'entraîner un petit peu des nouvelles choses, expérimenter en dehors des projets, quoi. Notre forme d'exercice et notre forme de contexte pour avoir une pression différente, disons. Et puis, ce que j'aime bien là, chez The Tribe, c'est que tous les jeudis midi, on fait une sorte de Brown Bag Lunch, donc des présentations techniques, méthodo, organisationnelles, produits pour partager. Et c'est un vrai plus par rapport à d'autres expériences précédentes. Et ça fait justement cette cohésion autour de notre métier, quoi.
Et le
Voilà.
CTO là-dedans?
Par rapport à tous ces trucs-là, moi je me place comme n'importe qui en fait.
D'accord.
L'autre jour, on faisait un coding dojo en Rust. Je suis pas du tout expert en Rust. J'avais la place du petit junior et ça m'allait très bien.
D'accord. Une dose d'humilité, du coup, en plus.
Oui, je ne sais pas si c'est de l'humilité ou à partir du moment où on dit qu'on est humble, est-ce qu'on l'est vraiment?
Oui. C'est
Mais
clair.
ouais, non, il y a des trucs sur lesquels je suis bon, voire très bon, et d'autres où c'est pas du tout, où je découvre, etc. Par exemple, tout ce qui est DevOps, je suis en cours de montée en compétences. C'est pas de là que je viens et j'écoutais pas trop les cours réseau à la fac. Voilà. Je dirais de réalisme plus que d'humilité, mais l'humilité est très importante.
Tu parles de d'être ensemble, de pouvoir en fait essayer de transmettre. Moi, ce que je ressens, c'est cette volonté de transmettre et de partager ensemble. Il y a un point qui m'importe dans la cohésion que tu as présenté aussi, que tu as mis en avant, c'est la formation qui est un peu liée à ce que tu parlais là. Comment tu mets ça en place chez The Tribe? Comment vous le mettez en place et qu'est-ce que ça apporte en fait? Et je finirai, ça va être les dernières questions. Juste après, je compléterai cette question avec comment vous trouvez le temps de faire tout ça dans le cadre de temps qu'on doit avoir en tant que salarié. Voilà, c'est ces deux questions. Donc tout d'abord, la formation, comment et comment, qu'est-ce que ça apporte et comment vous mettez ça en place. Et deuxièmement, comment vous arrivez à trouver tout ce temps.
Yes. Alors, pour les formations, on a pas mal de compétences en interne, avec les points forts, les points faibles de chacun. On a pas mal de stacks au global. Donc, le premier moyen de formation, déjà, c'est la formation interne avec, je sais pas moi, quelqu'un qui est très, 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 très bon, qui a beaucoup d'expérience en React. Il a préparé une formation en React. Donc, selon à qui il la donne, ça dure entre 1 et 5 jours. En général, les nouveaux arrivants, comme React et Node, c'est nos stacks principales. En général, les nouveaux arrivants, ils ont. Au minimum, c'est une remise à niveau. Au pire, c'est une formation complète sur React et Node. Donc ça, c'est le principal levier de formation. Après, j'ai pris des abonnements en début d'année sur Pluralsight et Frontend Masters en libre accès pour chacun, sans aucun contrôle flicage dessus. Hein, chacun s'en sert. Voilà. Je vérifie juste qu'il y ait au moins une personne qui s'en soit servie dans le mois pour être sûr que voilà, ça soit utile. Et après, quand on n'a pas les compétences, par exemple comme le coaching, là, on ressentait le besoin de se faire coacher sur le coaching. Et bien, on prend des formations externes. Et le nerf de la guerre, comment on trouve le temps de faire tout ça? Du coup, on a formalisé là en début d'année un nouveau système. Donc, tout le monde chez The Tribe a au minimum l'équivalent d'une demi-journée par semaine pour faire ce dont il a besoin. Par ce dont il a besoin, on entend la formation, bien entendu. Mais ça peut même être de la formation perso sur autre chose qui ne sert pas forcément The Tribe. Ça permet d'ouvrir les perspectives aussi. Par exemple, on n'a aucun projet en Svelte, on a deux, trois personnes qui sont en train de monter en compétence en Svelte pour leur plaisir. Bah, s'il y a l'opportunité de faire un projet en Svelte, on sera déjà armé pour. Il y a d'autres trucs qui peuvent être faits, qui enrichissent aussi les gens selon leurs préférences, participer au recrutement des autres devs, en faisant passer les entretiens techniques, etc. Je passe assez peu de temps en entretien technique chez The Tribe, finalement. Participer aux avant-ventes, ça, c'est au choix, mais un petit peu obligé, parce que s'il n'y a pas d'avant-vente avec des devs, les projets sont moins intéressants, ou il y a plus de surprises qui rentrent. Du coup, ça met tout le monde en inconfort. Donc tout le monde y met un peu la main à la pâte. Puis ça fait monter énormément en compétences sur la relation client, le recueil du besoin très tôt. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sujet? Ouais, c'est les principaux sujets, de toute façon, hein, la formation, le recrutement, les avant-ventes. Si, il y a la construction de la boîte aussi. Participer à la construction de la boîte, n'importe qui peut y participer sur ce temps-là. Que ce soit au local pour la tribu ou au global pour la boîte en général. Donc tout le monde a au minimum une demi-journée, l'équivalent d'une demi-journée par semaine, et peut du coup soit le fragmenter sur des journées, à peu près 1 heure par jour du coup, soit le garder hebdomadaire, soit le stacker pour prendre 2-3 jours entre deux projets, par exemple, pour creuser un truc à fond. C'est pas idéal, hein, on ne peut pas tout faire en l'équivalent d'une demi-journée ou d'une journée, mais c'est l'effort que pour l'instant la boîte peut investir, ce qui est déjà pas mal.
C'est pas commun.
Voilà.
C'est pas commun. OK. Tu parles de volontariat. Ça va être ma dernière question pour finir cette interview autour de la cohésion. Si tu parles de volontariat, la cohésion et le volontariat, c'est quelque chose qui peuvent être opposés comme ensemble. Quelle est ton approche par rapport à ça? Tu en as un peu présenté, mais moi, ça m'intéresserait vraiment de, voilà, en 5 minutes, hein, de que tu donnes à peu près ta vision de comment réussir que le volontariat ne soit pas forcé. Que ce soit du vrai volontariat, et donc du coup bah, que le volontariat continue dans le temps, parce que souvent le volontariat peut démarrer, mais qu'est-ce qui se passe après? Comment tu vois ça?
Ah, ça continuer dans le temps, c'est un vrai sujet. Garder les énergies actives, quoi. Côté volontariat, ça, pour moi, ça rejoint un petit peu justement la volonté de rendre les gens autonomes et responsables. Du coup, bah, tu n'es pas, tu peux le faire, tu ne peux pas le, tu peux ne pas le faire. Rien ne t'y oblige, il n'y a pas de loi. Par contre, si tu ne le fais pas, voilà les désavantages éventuels par rapport aux avantages. Si tu le fais, par contre, voilà l'aide que ça apporte, les avantages pour toi, pour la boîte, et les désavantages, bien entendu. Donc voilà, il y a des gens qui sont hyper friands, hyper moteurs, pour ce genre de choses, en fonction de leurs préférences et tout. Et donc, moi, je vais m'appuyer sur ces gens-là en général, les gens qui veulent s'impliquer, qui veulent être moteurs, parce que en plus, bah, maintenant que je suis CTO, il y a cet aspect un petit peu les hautes sphères et compagnie, une étiquette qui est sur mon contrat, mais aussi qu'on me met et par moments que je suis obligé de prendre. Donc, quand la motivation vient de la personne qui est assise à côté de toi ou qui travaille en remote tous les jours avec toi, ben c'est un autre message que une motivation qui vient d'en haut entre guillemets par le CTO, par le CEO. Et donc je m'appuie sur ces gens moteurs qui sont intéressés par ce que je propose pour que eux-mêmes après intéressent les personnes autour d'eux. Éventuellement avec leur retour d'expérience. Après, que ça tienne dans le temps ou pas dans le temps, j'ai pas forcément d'avis, parce que comme on a une grosse culture d'expérimenter les choses, ça me dérange pas que quelqu'un essaye quelque chose que ça lui plaise pas et qu'il décide d'arrêter, quoi. Alors, pour le côté général, disons, de la chose. Après, pour les aspects techniques, il faut quand même qu'il ait creusé un petit peu le sujet pour se faire son avis. Et pas juste, ah ben j'aime pas, c'est trop compliqué. Voilà un petit peu. Et c'est ça, hein, en ce moment, le grand enjeu de 2021 et 2022 par rapport à répandre la pratique de test-driven development. C'est une pratique complexe qui est difficile à maîtriser. On voit de plus en plus de bullshit sur les offres d'emploi, les bootcamps qui forment à TDD en une journée, etc. Il y a plein de gens qui ne comprennent pas l'intérêt de se retourner le cerveau finalement pour travailler comme on n'a jamais travaillé avant. Et il y en a qui voient l'intérêt. Et ben là-dedans, c'est pareil, je m'appuie là-dessus en allant faire du pair prog sur le sujet explicitement avec eux pour qu'ils prennent ça en main. Un petit peu mentoré, comme moi j'ai pu l'être il y a maintenant 15 ans, mais être un petit peu mentoré et pouvoir comprendre un peu plus vite que juste par les livres et les vidéos, quoi.
Ouais, donc s'appuie sur des early adopteurs un peu dans cette idée-là.
Exactement. Exactement. Ah ouais, bah, c'est le terme parfait. Je le garde.
Ce que tu me décris me fait penser à la stratégie de la courbe d'innovation, d'adoption de l'innovation. Je ne sais plus comment elle s'appelle, elle a un nom précis. Je me rappelle que dans la première partie, dans cette courbe-là, on voit, je le mettrai dans le montage, on voit vraiment ces early adopteurs en fait, qui vont décider si oui ou non après, par la suite, ça durera. Et ce que tu décris a l'air d'aller vers là. Je le pose hein, après avoir.
Ouais, ça me fait bien penser à ça, en tout cas, sur le développement de produits. Une fois que tu as tes early adopters avec toi, ça fait tache d'huile, entre guillemets.
Ouais, une contagion, après, contagion positive, hein, contagion sociale. Ok. Bah, merci. Merci pour tes réponses. Merci pour cette interview.
Merci à
L'interview
toi,
touche à
Evan.
sa... Bah, avec grand plaisir, l'interview touche à sa fin. Alors, on va rêver pour... Bah, ça fait 3 quarts d'heure à peu près qu'on est ensemble, 40-45 minutes. Si tu avais un dernier mot à donner pour la postérité, qu'est-ce que tu dirais, une dernière phrase pour ce podcast, pour ton métier, enfin, sens-toi libre après.
Apprendre, apprendre, continuer d'apprendre toujours et prendre
D'accord.
du plaisir dans son boulot, quel qu'il soit.
Ouais.
Happy coding pour les développeurs, happy thinking pour les product managers.
Et pour le CTO, du coup, happy quoi?
Happy cohésion pour le
Happy
CTO.
cohésion. Yes.
Voilà.
Happy cohésion. Ah, ben on retiendra cette phrase-là. J'aime bien. Super. Merci. Ouais. 3, 2, 1.
Bye bye.